Que l'on soit chrétien ou en cheminement, lorsqu'on s'intéresse à la foi chrétienne, il y a des questions qui reviennent tout le temps, des questions qui nous accompagnent tout au long de notre vie. La première est celle-ci. Dieu va-t-il prendre soin de moi ? Est-ce qu'il va veiller à mes besoins ? La deuxième est celle-ci. Dieu s'attend-il à ce que dans cette situation, là maintenant, eh bien, je me débrouille par moi-même ? Est-ce que Dieu me met au défi par ce que je vis ? Eh bien, le texte de ce jour, qui est la poursuite de l'étude de l'Évangile selon Marc, va nous aider à répondre à ces questions, et je vous invite, sans plus attendre, à aller donc au chapitre 6 de l'Évangile selon Marc. Et nous allons, je vais lire à partir du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre. Donc nous sommes dans le contexte où les disciples ont été envoyés dans une courte mission pour annoncer le message de l'Évangile, et ils reviennent, et Jésus, à leur retour, veut les prendre pour les mettre à l'écart et passer un moment avec eux. Et il leur dit, verset 31, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. » Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur répondit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. On ne comptait pas les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, à peu près entre 3h et 6h du matin, donc vraiment à la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils furent troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. en eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent aussitôt Jésus, parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des grabats partout où l'on apprenait qu'il était. Partout où il entrait, village, ville ou campagne, on mettait des malades sur les places publiques et on le suppliait afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient délivrés. Ce texte est le deuxième volet du chapitre 6 que nous avions vu ensemble la fois précédente où c'était moi qui enseignais. Dans la section précédente, nous avions vu l'endurcissement des proches de Jésus. Jésus était retourné dans son village où il avait grandi, là où il y avait ses amis d'enfance, sa famille, et où il avait connu le plus grand nombre de personnes dans sa vie. Et dans ce lieu-là, les gens étaient endurcis et Jésus n'avait pas pu faire beaucoup de miracles. Il avait décidé de partir parce qu'il n'acceptait pas cette attitude. Et puis, dans ce texte, nous avons vu aussi l'endurcissement du cœur de Hérode, qui, voyant le témoignage de Jean-Baptiste, à cause de sa compromission, a quand même choisi de mettre ce prophète, qui était le dernier qui annonçait la venue de Jésus, en prison, et finalement de le tuer pour pouvoir avoir une faveur qu'il désirait. Endurcissement des proches, endurcissement de Hérode. Et ce texte est peut-être encore un peu plus triste, parce que jusqu'alors l'endurcissement venait de l'extérieur, et là il y a une petite phrase qui nous permet de comprendre tout ce passage. Regardez au verset 52, ils n'ont en eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau et venir vers eux, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Jusqu'à présent, nous voyions de l'endurcissement de l'extérieur, et là, Jésus va être confronté à de l'endurcissement à l'intérieur même de son groupe, parmi ceux que lui-même a choisis pour être sa relève. Vous suivez le raisonnement du verset 52 ? Ils n'ont pas compris ce qu'a montré Jésus en multipliant les pains. Ils ne pouvaient donc pas s'attendre à ce qu'il marche sur l'eau et donc ne l'ont pas reconnu. Leur cœur était endurci. Et Jésus utilisera ce même mot, endurci, lui-même un peu plus tard, au chapitre 8, verset 18, quand il leur fera, dans les mêmes circonstances, mais je ne veux pas trop anticiper parce que nous l'aborderons une autre fois, « Avez-vous le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas et des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés ?» Endurci. Ce texte répond aux questions que nous nous posons. Lors de la multiplication des pains, pourquoi doute-t-il que Jésus puisse prendre soin des besoins de la foule? Et puis, quand ils sont sur le lac, en pleine tempête, ça fait des heures et des heures qu'ils rament, pourquoi doute-t-il que Jésus puisse venir à leur secours? Deux manifestations, un même problème. Et la réponse nous est donnée, leur cœur était endurci. Pourquoi ils ne font pas confiance? Pourquoi ils ne s'attendent même pas à ce que Jésus vienne les aider? Parce qu'ils sont endurcis. Ils voyaient quotidiennement Jésus à l'œuvre. Au quotidien, ils l'ont vu déjà faire des miracles extraordinaires. Ils l'ont vu déjà marcher sur les eaux, calmer la tempête, pardon. Ils l'ont vu déjà guérir combien et combien de malades. Eux-mêmes ont été envoyés par Jésus. Ils reviennent tout juste d'une mission où ils ont connu apparemment un franc succès. Ils ont pu opérer des miracles. Et là, ils doutent. Et je pense que la remarque que nous nous faisons tous à propos de leur comportement est celle-ci. Comment se fait-il qu'avec tout ce qu'ils voyaient, avec Jésus sous leurs yeux, pouvaient-ils encore douter? Et on se pose la même question quand on lit l'Ancien Testament et qu'on voit le peuple de Dieu, par exemple quand il est, après être sorti, délivré du pays d'Égypte, où Dieu fait des miracles absolument extraordinaires, il ouvre une mer en deux, fait passer son peuple, il les nourrit dans le désert d'une façon miraculeuse encore, etc. Et le peuple, aussitôt que l'événement est fini, commence à s'endurcir. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge. Ils doutent tout le temps. Et on voit là, chez ces apôtres, que ni leur statut d'apôtre, ni leur expérience déjà qu'ils ont acquise auprès de Jésus, ni leur pédigré et le succès passé ne peut les garder, les protéger de s'endurcir. Je voudrais donc, dans un premier temps, explorer les deux manifestations de l'endurcissement que nous avons dans ce texte. Et puis, dans un deuxième temps, nous verrons comment sortir de cette ornière-là, comment trouver la réponse lorsque nous doutons et comment nous attendre et compter concrètement sur Jésus. Premièrement, la cause de leur endurcissement, première, c'est leur doute. Regardez leur comportement plus en détail avant le miracle de la multiplication. Malgré, comme je le disais, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils savent de Jésus, ils voient l'heure passer, tic-tac, tic-tac, il y a du monde, eux-mêmes sont fatigués, Jésus leur avait proposé un repos qu'ils devaient probablement beaucoup attendre, ils n'avaient même pas eu le temps de manger, et enfin, ils veulent se retrouver avec Jésus, et lui continue encore d'enseigner, et tic-tac, tic-tac, le temps passe. Ils ont faim, c'est sûr, et ils se disent aussi que les gens ont faim. Malgré tout ce qu'ils ont déjà vu, ils s'imaginent que Jésus oublie ou qu'il est en train de perdre le contrôle. Et ce doute les conduit même à se permettre de l'interrompre pour leur dire « Eh oh, t'as pas vu l'heure là? Il serait temps que ça cesse. Les gens ont faim, on va pas, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et puis, nous on est crevés, hein, on en a marre. » Ça c'est moi qui rajoute. Ils ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Jésus est en train de faire quelque chose qui a été attendu. Il est en train de répondre aux attentes les plus profondes des gens. Il leur livre, il leur délivre son message, le message qui les nourrit profondément, le message dont ils ont besoin. Et eux, les disciples, regardent au manque de pain. Leur préoccupation pourrait nous sembler tout à fait légitime, et je crois que quand on a faim, c'est normal de se dire « est-ce qu'on va manger ?» Mais le problème, c'est qu'ils sont en présence de Jésus et qu'ils ne s'attendent pas à ce que Jésus prenne l'initiative et se croit légitime pour lui dire « il faut faire quelque chose ». Regardez ce qu'il se passe ensuite quand Jésus leur intime l'ordre de commencer à donner à manger aux gens. Donnez-leur vous-même à manger. Ils disent, Jésus, on ne peut pas les nourrir. Jésus dit, nourrissez-les. Il leur dit quelque chose qui est absolument impossible. Ils doivent se dire, non, il n'a pas compris. On vient de dire qu'on n'avait pas de quoi nourrir ces personnes et Jésus nous demande de les nourrir. Encore une fois, Jésus répond de façon bizarre. Et je me dis qu'ils ont dû penser, non mais t'es sérieux là, ça, en plus t'as vu ce que ça coûterait, on a même tout l'argent qui est mentionné, un denier représentait un jour de salaire, imaginez le prix que ça coûte quoi, tu te rends pas compte. Finalement, je me dis que quand on regarde le comportement des disciples et qu'on a ce regard un petit peu dur sur leur attitude, leur doute, eh bien, ça nous renvoie directement au nôtre. Dans ce contexte, Avoir un cœur endurci, c'est douter que Dieu sache ce qu'il fait. Pour s'endurcir, dit autrement, il suffit simplement de penser que Jésus n'est pas en train d'agir comme il doit le faire. Quand je pense que ça serait mieux différemment, c'est un symptôme, une manifestation de mon endurcissement. Dans la théorie, les chrétiens croient tous que Dieu est au contrôle. Nous le prêchons, nous le prions, nous nous exhortons mutuellement à croire cela et nous en sommes absolument convaincus. Mais les circonstances, je constate dans ma vie, ont un pouvoir de persuasion extraordinaire. Oui, Dieu est en contrôle, mais dans mes circonstances-là, dans ma petite vie à moi, aujourd'hui, est-ce que ce contrôle est en train de se manifester? Ou est-ce que c'est juste un grand principe? Répondez honnêtement à ces deux questions, pour vous-même. En regardant en arrière, en considérant votre vie passée, constatez-vous que Dieu a manqué de faire ce qui était bon pour vous? Deuxième question. Aujourd'hui, ne doutez-vous pas, ne vous souciez-vous pas que pour tel ou tel projet, telle situation dans votre vie ou votre avenir personnel, Dieu ne fera peut-être pas ce qu'il faut? Quand on regarde derrière soi, on ne doute pas. Nous, a posteriori, nous voyons la main de Dieu et nous nous disons « Ah, moi je croyais que j'avais besoin de ça, mais Dieu m'a donné ce dont j'avais réellement besoin. Il n'a jamais manqué à son devoir. Ses choix étaient toujours les bons. » Et quand moi je disais « Oh, l'heure passe !» Eh bien non, il était en train de faire ce qu'il fallait. Et pourtant, je doute encore. Je doute. Je suis empreint de doute. Il n'y a pas un jour où je ne doute pas. Il n'y a pas un jour où je ne me demande pas si Dieu va faire les bonnes choses pour moi, s'il va vraiment prendre soin de moi comme je le veux. Dans la théorie, je le crois. Mais dans mon comportement, est-ce que je le montre? Non. Deuxième symptôme, deuxième manifestation de l'endurcissement, je m'endurcis quand je ne compte pas sur Jésus. Après ce miracle extraordinaire de la multiplication des pains et qui a une valeur symbolique hors du commun, et nous reviendrons dessus un petit peu plus tard, ils prennent la barque, ou plutôt Jésus les oblige à prendre la barque. Et c'est intéressant. Avant, eux-mêmes donnent un ordre à Jésus, enfin au moins un conseil bien appuyé, voilà ce qu'il faudrait faire, et derrière c'est Jésus qui leur donne des ordres, donnez-leur à manger, maintenant prenez la barque, précédez-moi, allez-y devant. Alors normalement on suit, hein, et on n'est pas devant le maître, on le suit et puis on la boucle. Et Jésus leur dit de prendre la barque. Il faut encore une fois avoir le contexte de l'évangile selon Marc à l'esprit. Au chapitre 4, Jésus s'est déjà retrouvé sur la barque avec ses disciples, et il a apaisé la tempête alors qu'ils étaient morts de peur. Donc quand tu es un disciple, en général, quand tu vas te retrouver au milieu d'une foule, ou quand Jésus te demande de monter dans une barque, il faut t'attendre à ce qu'il se passe des choses. D'accord ? Faut t'attendre à un test, quoi. Il s'est déjà passé quelque chose sur une barque, et là, il nous renvoie sur la barque. Bon, ok, on y va. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On les voit qui galèrent au sens littéral, quoi. Ils rament pendant des heures. Ils partent en fin de journée et on voit que vers la fin de la nuit, ils ne sont toujours pas arrivés. Le lac fait 250 mètres de diamètre dans sa largeur. 250 mètres, c'est rien du tout. On peut les faire à la nage. Et eux se retrouvent à cause d'une tempête à ramer toute la nuit en plein milieu. Il ne faut pas oublier que certains d'entre eux sont des pêcheurs, des professionnels. On imagine les bras, quoi. Les gars avaient l'habitude d'être dans la mer, de remonter les filets, de ramer. Enfin, ils savaient conduire une barque. Et ils se retrouvent, après des heures, toujours au milieu de ce lac. Est-ce qu'ils ont crié à Jésus ? Non. Ils ont continué parce que Jésus leur avait demandé d'aller de l'avant. Et pensent-ils même à l'appeler ? Pensent-ils qu'ils puissent venir les secourir ? Absolument pas. La preuve en est que lorsqu'ils le voient venir, pour eux, ça ne peut pas être Jésus. C'est forcément un fantôme. C'est plus crédible que ce soit un fantôme que Jésus, qui a déjà calmé la tempête, qui multiplie tous les pains, parce que Jésus ne va pas, ils ne s'attendent pas à ce que Jésus vienne les secourir. Cette croyance du fantôme était une superstition qu'il y avait. Vous savez, on dit que les marins sont très superstitieux, et c'est vrai, ce n'est pas nouveau. Et à l'époque, déjà, dans cette région du monde, il y avait beaucoup de superstitions, et dans les milieux les gens pensaient donc aux fantômes. Et les disciples qui ont vu Jésus, qui l'ont côtoyé, pensent voir un fantôme. Je crois que l'avertissement pour nous est clair. Quand on veut vivre par ses propres forces, quand on ne s'attend plus à ce que Dieu n'intervienne pour nous secourir, nous sommes endurcis. C'est une manifestation de l'endurcissement déjà présent et croissant dans notre vie. Combien de fois je rame et je rame pendant des jours pour essayer de comprendre, de mesurer, de peser, d'évaluer, de trouver la solution à une situation. Et pourtant, je suis toujours au milieu du lac. Et je ne m'attends même pas à ce que Christ vienne me secourir. Cette vérité que tout dépend de lui et qu'il ne pouvait pas s'en sortir sans lui et que, le voyant arriver, ils auraient dû le reconnaître et dire « Hourra, viens nous sauver, tu l'as déjà fait !» ou même l'appeler alors qu'ils ne le voyaient pas, ce qu'ils apprendront à faire quand Jésus sera remonté au ciel plus tard, eh bien, cette vérité est simple, mais elle est très difficile à mettre en place, très difficile à vivre, parce que c'est absolument contre-intuitif par rapport à tout ce que nous faisons dans notre vie. Tout dans notre monde nous rappelle que tout dépend de nos capacités. Sans la présence de Dieu, l'homme est seul et doit s'en sortir seul. Et Jésus nous rappelle, au travers de ce qu'il se passe et de sa pédagogie avec ses disciples, que essayer de s'en sortir par soi-même, en ne comptant que soi-même, d'être endurci à ce point, c'est comme si on voulait casser une montagne en tapant dessus avec la main. On va taper, taper, taper. La montagne, elle, ne bougera pas. Notre main, elle, deviendra tout endurcie. Mais la montagne, elle, n'aura pas bougé. Ce que produit l'illusion que nous pouvons nous en sortir par nos capacités, par nos forces, ça produit simplement l'entêtement, l'orgueil et l'abattement. Ces deux manifestations qui nous montrent que je suis endurci, quand je doute que Jésus va intervenir, ou quand même je ne m'attends même plus à ce qu'il intervienne et je vis par moi-même, j'essaye de résoudre le problème par moi-même, montre que je suis donc endurci. Maintenant, passons à la deuxième partie. Comment sortir de cette ornière ? Avons-nous le moindre espoir de ne pas nous endurcir ? Nous l'avons déjà dit au début de ce temps, nous nous endurcissons régulièrement. On peut être disciple, croire en lui, mais dans les faits, au quotidien, avoir le cœur dur et ne plus nous attendre à lui. Comment pourrions-nous avoir le moindre espoir de sortir de cette situation ? Eh bien, ce texte, je crois, nous donne deux pistes qui sont très utiles. La première est celle-ci. Nous pouvons sortir de l'endurcissement par une compréhension renouvelée et réelle de qui est Jésus. Mes amis, ce texte-là et l'évangile selon Marc est un bijou. On a l'impression, quand on le lit comme ça, vous qui l'avez peut-être déjà lu plusieurs fois, que c'est un enchaînement rapide de situations. L'auteur passe d'une situation à l'autre et finalement on a du mal à voir la cohérence d'ensemble. Et quelque chose qui est extraordinaire et qu'on essaie de vous montrer au travers de cette série, c'est que Marc fait référence constamment en toile de fond pour nous présenter qui est Jésus à ce qui est appelé dans la Bible l'Exode. L'Exode est l'événement qui débute lorsque le peuple de Dieu était prisonnier, on peut le dire comme ça, esclave en Égypte de Pharaon, et que Dieu a envoyé Moïse pour libérer ce peuple. Ça commence là, l'Exode, jusqu'à l'établissement dans la terre promise. La sortie d'Égypte, les 40 ans dans le désert, et puis l'entrée dans cette terre promise. C'est cet ensemble-là qu'on appelle l'Exode. Regardez ce que fait Marc pour faire des allusions très discrètes, des petites touches, pour nous montrer le problème des disciples, qui n'avaient pas encore compris vraiment qui était Jésus. L'Exode, regardez, Jésus dit, quand il voit la foule et qu'il est rempli de compassion, il voit la foule comme ayant des brebis qui n'ont point de berger. Cette expression, Jésus ne l'a pas sortie, ne l'a pas inventée lui-même, mais il cite volontairement des paroles de Dieu écrites dans le livre de Nombres. Lorsque Moïse dit à Dieu, ayant bien compris que le peuple Israël ne pouvait pas rentrer dans la terre promise, ne pouvait pas vivre la vie à laquelle Dieu l'appelait sans être conduit par quelqu'un, Moïse, étant à la fin de sa carrière, parla à l'Éternel, en Nombres 27, verset 16, et dit « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur la communauté un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » Moïse demande à Dieu de placer quelqu'un qui conduira le peuple pour sortir du désert et entrer dans la terre promise. Et Dieu donnera Josué. Quand Jésus voit la foule, il voit cette foule comme étant un peuple qui n'a pas de berger. Et il est lui ce berger, celui qui peut conduire la foule, qui peut conduire les hommes, qui peut conduire son peuple dans la vie éternelle. Jésus nourrit la foule, multiplie les pains dans un lieu désert. Encore une fois, une référence à quelque chose qui s'est passé dans l'Exode. Pendant qu'ils sont sur l'eau et qu'ils sont dans l'épreuve, Jésus, lui, est en haut d'une montagne en train de prier. Encore une fois, on peut penser à Moïse qui priait pour le peuple quand il était dans l'épreuve de la bataille. Et puis Jésus traverse d'une façon miraculeuse l'eau, le lac, et encore une fois, allusion à ce peuple qui traversait et qui suivait Moïse au milieu de la mer pour être sauvé. Bref, je ne vais pas développer tout cela, mais tous ces indices qui nous sont donnés servent à une révélation unique. Ils nous montrent que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas simplement un homme extraordinaire. Jésus n'était pas quelqu'un qui avait des capacités et un pouvoir spirituel et des possibilités de faire tant et tant de miracles. Jésus fait les miracles que Dieu fait parce que Jésus est Dieu. Cette révélation arrivera à son apogée quand Jésus sera à la croix, bien entendu. Le berger se fera condamner par ses propres bruits. Il donnera, il aura compassion jusqu'à aller offrir sa propre vie, pas simplement des biens matériels, mais sa propre vie pour répondre à leur plus grand besoin, celui d'être pardonné et de pouvoir avoir la vie éternelle. Sa compassion n'aura pas de limite, et les disciples ne s'en sont pas encore rendus compte. Ses pouvoirs n'ont pas de limite, et les disciples ne s'en sont pas encore rendus compte. Et contrairement à ces personnes qui étaient présentes avec Jésus à ce moment-là, notre avantage est immense. Nous, nous sommes de l'autre côté de la croix. Nous avons l'ensemble du récit. Nous savons tout ce que Jésus a fait. Et Pierre lui-même, qui faisait partie des hommes présents dans la barque, lui qui doutait, qui n'a pas pensé à appeler Jésus comme les autres, dira ceci à l'Église. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. C'est par lui que vous pouvez croire. C'est par lui que vous croyez en Dieu. Notre espoir face à l'endurcissement est là. Jésus est celui qui peut changer notre cœur et nous donner la foi qu'il attend de nous. Jésus est le modèle de la foi. Dans son comportement, lui, il n'a jamais douté. Il ne s'est jamais dit « mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Je ne comprends pas. » Non, il avait pleinement confiance dans le Père, donc il est le modèle de notre foi, mais pas seulement. Jésus est aussi la source de la foi. C'est lui qui nous la donne et qui la fait grandir. C'est en regardant à lui, donc, que nos cœurs sont changés. Comment trouverons-nous les ressources pour ne pas garder un cœur dur? Premièrement, en regardant à Jésus. Quand nous doutons des événements, rappelons-nous de qui il est. Deuxièmement, par une compréhension renouvelée de sa pédagogie. Ce que Jésus fait dans ce texte est vraiment extraordinaire. Ses disciples doutent. Que fait-il? Au lieu de les rassurer, leur dire « ne vous inquiétez pas, ça va, je vais gérer, voilà, je vous explique, j'avais prévu de faire un miracle, voilà, j'avais noté l'heure, ne vous inquiétez pas, je vérifiais la montre, voilà, je savais qu'il y avait des pains et des poissons. » Il ne les rassure pas, mais il leur dit « donnez-leur vous-même à manger. » Quand ses disciples doutent, Jésus, que fait-il? Il les met face à une situation qui est absolument impossible. 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 Qu'aurait-il dû répondre? Donnez-leur vous-même à manger. Mais attends, tu nous demandes quelque chose d'impossible. Nous ne pouvons pas nourrir ces gens. Ce n'est pas possible. On a besoin de toi. Il faut que toi, tu fasses quelque chose. Et non pas, là, tu es dépassé. C'est à toi de faire. Jésus met ses disciples dans des situations inextricables. Et les amis, je vais vous dire probablement quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais une leçon que nous devons tirer, je crois, de ce texte. Le Seigneur nous place délibérément dans des situations impossibles pour nous apprendre à ne plus douter. C'est dans des situations impossibles que nous devons nous attendre à ce que lui agisse. Dit autrement, les situations impossibles de ma vie sont des occasions de glorifier Dieu en lui montrant que je sais qu'il est aux commandes et qu'il va agir comme il le faut. Mais ce n'est pas tout. Regardez, c'est lui qui fait le miracle de la multiplication et c'est eux qui distribuent. Jésus nous sort de cette ornière d'un cœur qui est dur, qui doute, en nous faisant participer à ses œuvres. Et c'est ce qu'il n'aura de cesse de faire avec les apôtres tout au long de leur formation, comment forger leur foi en leur disant « Allez, maintenant, distribuez ». Et à chaque fois, ils devaient prendre des mains de Jésus et un pain, un poisson, et ils devaient aller donner aux gens. Et ils étaient immergés dans ce contexte d'obéissance et de mise en action de leur foi. Vous savez pourquoi Jésus ne doutait jamais. Certes, nous pouvons dire qu'il était Dieu, mais Jésus, étant 100% Dieu, est devenu, dans l'incarnation, en se faisant homme, 100% homme. Et pourtant, lui, dans son humanité, qui est la même que la nôtre, n'a jamais douté. C'est un espoir et il y a un enseignement à tirer de son modèle de vie. Regardez le verset 46. Quand Jésus eut pris congé d'elle, de la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis que nous avons commencé à étudier l'évangile selon Marc, le nombre de fois où Marc nous montre des moments où Jésus est en prière. Jésus avait une vie de prière qui le gardait du doute. Et quand il fut dans le jardin de Gethsémané, dans la pire des situations, la plus terrible, quel a été son réflexe ? La prière. C'était tout ce qu'il possédait comme arme pour se tourner vers le Père et trouver le réconfort. Un réconfort, d'ailleurs, qu'il n'a pas pu trouver à ce moment-là, afin qu'il puisse obéir en toutes choses et prendre la colère de Dieu à notre place. Ce qui nous garde de l'endurcissement, c'est la prière, une vie de prière nourrie et riche. Ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas « Ah déjà, nous avons fait participer à telle mission ou accompli telle chose dans notre service ou dans nos projets professionnels, on s'est déjà sorti de telle et telle situation et nous avons les capacités de nous sortir de la prochaine ». Non, c'est dans la prière que nous trouverons la confiance en Dieu et que nous comprendrons qui est Jésus, première solution, nous nous rappellerons, et que nous ferons appel à lui pour venir nous aider. C'est le moment de conclure. Quand je doute, quand je ne m'attends plus à lui, à ce qu'il intervienne, mon problème ne vient pas de Dieu, mais de moi. Ce qui me libère dans l'endurcissement, c'est de comprendre que la solution n'est pas en moi. L'évangile n'est pas du moralisme, où on se dit « je dois changer, je dois me prendre en main, je dois compter sur moi, j'ai en moi le potentiel et je dois faire les bons choix ». L'évangile nous invite à dire « vous ne pouvez rien, faites-moi confiance, venez à moi pour recevoir ce dont vous avez besoin ». Et c'est précisément à cause de mon endurcissement qu'il a dû offrir sa vie pour me libérer. Et c'est précisément parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité que j'ai de l'espoir de ne pas m'endurcir encore et encore. Adolphe Monod disait ceci, « Regardant à Jésus dans l'Écriture, pour y apprendre ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il donne, ce qu'il demande, pour trouver dans son caractère notre modèle, dans ses enseignements notre instruction, dans ses préceptes notre loi, dans ses promesses notre appui, dans sa personne et son œuvre une pleine satisfaction offerte à tous les besoins de nos âmes. » Amen.